Bien.
Bon, je vais parler en dehors du micro alors.
S'il vous plaît. Pour commencer à l'heure, on va peut-être même commencer avec un peu d'avance.
C'est Jean-Marc Juge qui a ton bouquin.
Je vais quand même présenter Serge Proust qui va être notre modérateur. Donc Serge Proust qui est avec qui j'ai eu le plaisir de travailler comme professeur d'économie au lycée Jean Monnet et qui est maintenant maître de conférence à l'université Jean Monnet. Il n'a pas voulu changer de nom, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon. Et donc, il est spécialisé dans l'étude du monde du théâtre, hein, c'est ça ? En sociologie. Je fais simple.
Tu fais simple,
j'ai toujours
raison.
Été simple.
Bien, bonjour. Je suis chargé de la modération. Bon, je pense qu'il n'y aura pas trop besoin de modérer. Enfin, j'espère. On ne sait jamais. Bien, donc ce matin, d'après ce que j'ai compris, je suis désolé, pour différentes raisons, je n'ai pas pu être là. Donc ce matin, il y a eu un peu un état des lieux, des différentes structures ou d'un certain nombre de structures en termes de présentation de leur activité, des terrains d'enquête, des terrains d'activité. Et cet après-midi, donc l'intitulé est quel partenariat ? Et donc ça signifie que les interventions et la discussion qui aura lieu portera sur la manière et les modes de collaboration et les objets éventuels de collaboration entre les différentes structures, quel que soit leur degré d'institutionnalisation et d'organisation. Alors, avant de passer la parole et afin de tenir les délais, je m'efforcerai, comme j'en ai l'habitude, de faire tenir les intervenants dans les horaires et les horaires qui leur sont affectés, afin que tout le monde reste jusqu'à 17h, puisqu'on sait qu'en général, si les vendredis après-midi notamment, ça dure trop, les assemblées se délitent. Et donc, afin que tout le monde puisse participer aux discussions, je vais m'efforcer, quitte à être considéré comme je ne sais trop quoi, un flic, à ce que tout le monde commence à l'heure. Et pour que nous puissions commencer à l'heure, je cède tout de suite la parole à François Maguin, donc de l'Université de la vie associative, qui va présenter son association. Et donc, je rappelle, le thème, c'est aussi quels sont les partenariats possibles avec les différentes structures.
Donc, oui, François Maguin, président de l'Université de la vie associative. Et ce que je vais vous raconter, je ne veux pas tellement faire de la théorie, ce que je vais vous raconter, c'est une expérience de recueil de témoignages qui s'est installée entre plusieurs partenaires sur Saint-Étienne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Université de la vie associative, il s'agit d'un dispositif de l'Université Jean Monnet qui réunit d'une part des enseignants, des chercheurs et d'autre part des militants associatifs et parfois des gens qui ont les deux casquettes. Son but, c'est de proposer de la réflexion et de la formation dans la vie associative. Donc, pour ça, le moyen, c'est des modules de formation et c'est aussi ce qu'on appelle les séminaires actions, c'est-à-dire des séminaires qui réunissent des acteurs différents et qui ont pour but de faire un constat et éventuellement de bâtir des réponses pour ce constat. L'histoire fait partie des intérêts de l'Université de la Jean Monnet et de l'UVA, mais ce n'est pas le but principal. Hein. C'est-à-dire que nous, il se trouve que, par exemple, on a eu un séminaire action avec le FJEP de la Métar à Saint-Étienne pour écrire leur livre sur la Métar, le FJEP, quelle histoire, en 2011. Donc, nous avons cette curiosité, nous avons cette envie d'en parler, mais ce n'est pas obligatoirement ça notre but. Comme on est un dispositif assez ouvert, les mauvais esprits disent qu'on est nulle part, les bons esprits disent qu'on est partout, donc on a été sollicité par les archives municipales de Saint-Étienne en 2012 qui préparaient une exposition que vous avez sans doute vue qui s'appelle « La semaine des quatre jeudis » sur l'éducation populaire et l'encadrement des enfants. Donc, on a travaillé un peu ensemble. Et puis, on a mis à disposition le réseau associatif de l'UVA. On a cherché des archives dans les associations. On a eu des rencontres aussi. Et tout ça a débuté de cette manière et a conduit, et c'est ça ce qui me paraît intéressant, cette opération a conduit à une envie de coopération, à une envie de partenariat. Et ça s'est manifesté à travers l'organisation d'une conférence sur l'éducation populaire aujourd'hui avec Jacques Yon, qui est un sociologue de l'université. Ça s'est manifesté aussi autour d'une publication des archives municipales qui reprenait l'exposition. Mais le fait d'aller dans des associations ensemble, les archives, les gens de l'UVA, a permis de faire un certain nombre de constats. Ces constats, c'est que les associations... Il y a toujours un manque de temps. Une association, en général, c'est dans une action ici et maintenant, même si elle s'intéresse au passé. Résultat, elle ne s'intéresse pas à sa propre histoire ou elle a peu d'éléments sur sa propre histoire. En plus, une association, c'est des gens qui changent assez souvent, même si on connaît des présidents de 30 ou 40 ans. Tant mieux, ils sont là, c'est des témoins, on peut les interroger. Donc, des archives rares, des archives écrites qui ont souvent un problème de classification et de conservation. On est plus dans la boîte à chaussures que dans la conservation organisée. Par contre, une mémoire orale, une tradition de l'association qui se transmet par des vieux militants. Et c'est pour ça que la question qu'on posait à ces associations, qui avait souvent, qui disait, ça serait bien de conserver quelque chose, ça serait bien de dire qui on est aux gens qui arrivent à cette relève qu'on espère. On leur disait, interroger les témoins. Si vous étiez venu il y a un an ou si vous étiez venu il y a deux ans, il y avait Monsieur Machin qui avait fondé l'association en 1924. Mais il est mort l'année dernière, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée qu'il y avait cette mémoire, mais que cette mémoire-là, on arrivait toujours trop tard. Alors, il faudra bien s'arrêter un moment et interroger les gens qui sont vivants. Et c'est cette prise de conscience par les associations, mais également par l'UVA, et aussi par les archives qui bien sûr, recueillent la mémoire écrite, mais qui s'intéressent aussi à la mémoire orale, qui nous a fait dire qu'il y avait quelque chose à faire. Alors, à l'intérieur de ce séminaire, on a discuté de ce qu'il y avait à faire, et... L'idée, ça a été de mettre en place une opération de recueil de témoignages dans les associations. Ça paraît être évident, quoi. Le problème, c'est quand vous dites ça aux associations, ils disent on n'a pas le temps. Donc, on s'est dit où on pourrait trouver des gens que ça intéresserait et des gens qui auraient le temps. Et c'est là où la composante universitaire a joué son rôle. C'est que les chargés de cours sur l'éducation populaire dans les sciences de l'éducation ont une centaine d'étudiants. Et ils ont accepté, après discussion, négociation, etc., d'inscrire dans leurs travaux dirigés un recueil de témoignages des anciens des associations. Alors, si vous voulez, tout le monde était content, hein, seulement, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est là où on a eu besoin des expertises de chacun. Expertise des archives, tant municipales que départementales, qui ont expliqué aux étudiants et intervenu auprès des étudiants pour leur expliquer le cadre législatif de telles interviews. Également, un travail sur qu'est-ce qu'on demande. Un travail qui a été mené, donc les techniques de l'enquête, qui a été mené avec des intervenants fournis par les archives et qui a été mené aussi en liaison avec les associations. Parce que les associations, elles seules pouvaient nous dire que tel militant avait été fondateur de l'Amicale ou du Centre social, qu'il s'était passé telle crise. Et puis ces associations, souvent, elles se disaient, si j'ai cette mémoire, je vais pouvoir écrire, par exemple, ou du moins organiser une exposition, comme à Villars, par exemple. Donc du coup, ça pouvait marcher que si chacun des partenaires pouvait dire, voilà ce qui nous intéresse et voilà le cadre qui nous intéresse. Lorsque les étudiants disaient on va interviewer sur nos téléphones portables, vous imaginez ce que pouvaient penser les gens des archives sur la qualité technique et sur la conservation de tels documents. Il fallait que chacun dise qui il était, ce qu'il attendait, ses objectifs et ce qu'il pouvait apporter aussi. Donc ça s'est passé l'année dernière. 5 associations avaient joué le jeu et il y a eu une soixantaine de témoignages qui ont été recueillis. Ces témoignages, une copie est remise à l'association pour ses archives à elle et pour éventuellement un travail de mémoire. Et une copie est remise aux archives, donc pour les chercheurs d'aujourd'hui et de demain. Deux associations poursuivent ce travail-là en utilisant ces archives pour l'écriture d'un livre. Il s'agit de Trisomie 21, que vous connaissez peut-être, et de l'association familiale protestante. Vous voyez, des centres sociaux, des amicales laïques, Trisomie 21, l'association familiale protestante. On est dans une vision très large de l'association et très ouverte. Bien, ceci a abouti aussi à une idée de sensibilisation des associations à travers une conférence sur la conservation et la classification des archives, à travers la publication d'un petit bouquin qui s'appelle « Les archives associatives » qui donne la manière de classer, ce qu'il faut conserver, etc. Vous pouvez le demander aux archives, ils ont des exemplaires, hein, ou à nous, à l'UVA. Donc, et également à travers un atelier d'archives, si vous voulez, d'archivage, qui se tient dans les associations. C'est-à-dire qu'une association sollicite l'UVA pour venir aider à trier les archives. Il y a une personne des archives municipales ou départementales qui amène l'expertise. Et ce travail-là se fait sous forme d'atelier. Et souvent, il y a une autre association qui vient aider à trier les archives de l'association numéro 1, parce que l'année suivante, c'est eux qui recevront l'atelier de tri des archives de l'association numéro 2. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Il est 2 heures. J'ai le rude travail de vous réveiller. Donc, j'essaye d'être court. Hein. Bon, également, vous avez eu une dynamique qui, j'espère, se conserve, d'associations qui ont pris conscience de l'intérêt de leurs archives pour la collectivité et qui l'ont remis dans le cadre, qui ont remis soit aux archives municipales, soit aux archives départementales, fait un don. Bien, alors, très vite. Oui, ça. Le rôle de chacun, on va dire, hein, pour aller un peu vite. Le rôle de l'UJM, ça va être de guider des sciences de l'éducation, ça va être de guider les jeunes et de les noter, parce que c'est un exercice noté. Les associations, elles se présentent aux jeunes étudiants au cours d'une plénière qui a eu lieu en septembre. Elles vont organiser les rencontres, trouver les témoins, et elles vont aussi conserver un exemplaire de ces enquêtes. Les archives, je l'ai dit, apportent leur expertise, aussi bien dans le cadre légal que dans le cadre technique. Et l'UVA est l'appareil de coordination et, entre autres, a mis au point un protocole d'engagement des associations qui définit le rôle de chacun et prête le matériel nécessaire pour ces enquêtes. Alors, si on regarde le bilan de cette année universitaire, alors je ne veux pas être angélique, hein, il y a eu des problèmes. C'est quand même 3 cultures. Hein. La culture de l'association, ce n'est pas la culture des archives et ce n'est pas la culture de l'université. Et ces 3 cultures, s'ils ont des buts communs, ça va bien. Mais le moindre petit problème qui peut se poser peut prendre des dimensions, parfois assez énormes, où on soupçonne le partenaire de je ne sais quelle manœuvre. Et donc, là, l'UVA joue ce rôle un petit peu, puisqu'on a un pied dans chacun de ces mondes, joue un peu ce rôle de mettre de l'huile dans la machine, parfois. Hein. Vous avez eu un enrichissement des fonds pour les archives et pour les futurs chercheurs. Et surtout, j'aimerais insister là-dessus pour vous montrer aussi que ce n'est pas simplement un travail de ramassage de témoignages. Pour les étudiants, qui sont des étudiants de sciences de l'éducation, qui sont des gens qui ont 20 ans, ça a été la découverte de la vie associative. C'est-à-dire que on est frappé, surtout sciences de l'éducation, on se dit que ça va être des gens qui ont un minimum d'expérience dans l'éducation populaire et tout ça. Et les collègues qui s'occupaient, qui étaient chargés de cours, et qui sont des gens de l'éducation populaire quand même, parce que c'est aussi pour ça que ça a bien marché, ils ont été frappés du peu de connaissances que les étudiants avaient de la vie associative et de la découverte très souvent et de la mise en perspective de l'action des associations dans la société française. Alors que pour eux, eh ben, il y avait eux, les individus, et puis il y avait l'État, il y avait les pouvoirs publics, et puis il n'y avait rien au milieu. Et ils découvraient à travers ça qu'il y avait d'autres acteurs et des acteurs qui pouvaient leur proposer sur une perspective de 50 ans une évolution. Et ils pouvaient donc lire le rôle de laboratoire social qu'avaient pu avoir les associations, de préservation aussi, d'animation de la société. Ils découvraient aussi souvent la notion d'engagement. Aller parler avec quelqu'un qui a 80 ans et qui, pendant 60 ans, a été militant, a été dans des associations, a participé au développement de son quartier et tout ça, le voir en chair et en os. Et là, il y a un joli mot d'une directrice d'Amicale Laïque qui m'a dit « Oui, c'est normal, ils sont passés par la porte du cœur. » C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lu un discours, ils n'ont pas lu un discours sur l'engagement ou un discours sur l'histoire des centres sociaux, des Amicales Laïques. Ils ont eu des témoins, ils ont échangé avec ces témoins, au point qu'une étudiante a dit, dans ses réactions, a dit « J'aimerais bien avoir eu un grand-père comme ça. Hein » Vous voyez ? Donc, à travers cette émotion, hein, il y a eu quelque chose sur la notion d'engagement et qui s'est parfois incarné. C'est-à-dire que dans un équipement, les deux étudiantes qui sont venues, elles se sont engagées dans le soutien scolaire et elles ont, toute l'année, elles ont travaillé dans le soutien scolaire, dans l'équipement. Donc, le problème la relève, on en parlait un peu ce matin. Voilà, nous, un autre mode. Cette opération aussi peut faire pour la relève. Faire découvrir un monde qui, souvent, est un monde de vieux, aux yeux de jeunes, et faire participer, montrer qu'il y a de la place, justement, pour ces gens-là. Il me reste 5 minutes. Voilà, alors, on a recommencé cette année. On a commencé avec 11 associations. Alors, puisqu'il me reste 5 minutes, Espace Sisley, c'est un équipement social. L'OSPA, l'Office Stéphanois de Personnes Âgées, l'association qui gère l'OSPA. À Tout Monde, ça c'est un groupe, c'est assez marrant, c'est une association où ils ont 35-40 ans, mais ils veulent déjà organiser la mémoire. La MJC de Saint-Just-en-Rambert, les Amis de Ferdinand, qui s'occupent du quartier de Tardy au-dessus. Le centre social de Sorbier, de la Vivarès de Villars, la Fédération départementale des centres sociaux de la Loire et Cité Foot. Donc vous voyez, c'est assez diversifié. On ne rejette aucune association. Alors, ils ont 65 témoignages prévus. L'année dernière, on en a recueilli un peu plus de 50. Donc, vous voyez comment c'est quelque chose qui, peut-être, va prendre boule de neige. C'est quand même, en conclusion, je vais un petit peu essayer de tirer les leçons de ça. D'abord, c'est une expérience innovante. C'est-à-dire que, d'après ce qu'on sait, la France est grande et complexe. Donc, d'après ce qu'on sait, c'est quand même quelque chose de nouveau. Qu'on essaye d'avoir ce travail en commun, des institutions, l'université, des associations. Bon, et l'innovation, c'est bien, parce qu'une idée nouvelle, ça attire toujours plus les gens qu'une idée complètement surannée ou qui a déjà été pratiquée. Deuxième chose, c'est une histoire de réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas tombé du ciel. C'est des gens qui se sont mis d'accord pour faire quelque chose et qui ont mis à la disposition des autres leur propre réseau. C'est-à-dire qu'il nous arrive des associations qui veulent être interrogées par l'UVA, mais il nous en arrive aussi par les personnes des archives, il nous en arrive aussi par l'université. Donc, on fait fonctionner ce réseau, et c'est un réseau qui s'étend sur Saint-Étienne, mais aussi sur sa proche banlieue, puisqu'on a des gens de Saint-Just qui sont rentrés dans le réseau. Deuxième chose, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que si notre partenariat autour de l'exposition de la semaine des 4 jeudis n'avait pas fonctionné, je ne pense pas que je serais là pour vous raconter ça aujourd'hui. Ça s'est fait dans une action qui nous a permis de nous connaître et qui nous a permis de bâtir une confiance entre nous. Donc, ça a conduit à une volonté de coopérer. Et c'est cette volonté de coopérer qui fait que quand on a eu des conflits cette année, des conflits, petits conflits, mais ça s'est toujours arrangé dans des discussions où chacun pensait bien que l'autre n'avait pas un complot contre son association ou contre son institution. Hein. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y avait un respect du rôle et de la spécificité de chacun. Une université, ce n'est pas des archives départementales, et une association, ce n'est pas les archives municipales. Chacun a des objectifs différents, et chacun a une identité, une culture, pour aller vite, différente. Et pour faire travailler ces gens ensemble, il fallait que tout le monde y trouve son intérêt. Et ça, c'est une notion extrêmement importante pour nous. Hein. C'est-à-dire que les archives enrichissaient leurs fonds, les associations se donnaient les moyens de leur mémoire, les étudiants découvraient un monde qu'ils n'avaient pas encore découvert, les chargés de cours, ils avaient là un exercice original, pratique, intéressant pour les étudiants, et l'UVA était bien contente, hein, puisqu'elle a fait le travail, son objectif, c'est-à-dire de faire rencontrer des réseaux qui parfois ne se rencontrent pas toujours. Donc, pour conclure rapidement, il me semble, moi, ce matin, je réfléchissais à ce qui se disait et tout ça, et je me disais que de l'action naît la coopération. C'est-à-dire que l'action, elle naît d'abord parce qu'on fait quelque chose ensemble. Et que ça, c'est le premier, je dirais, c'est la première marche de l'escalier. On a envie de faire quelque chose et un projet où tout le monde trouve son compte. Et puis après, de la coopération va naître l'action. C'est-à-dire que si la première opération se passe bien et si on s'aperçoit qu'on est des partenaires respectueux les uns des autres, à ce moment-là, on va avoir envie de continuer et on va inventer des choses. C'est-à-dire que nous, on est passé d'une proposition d'action autour de l'exposition à une invention de choses, les ateliers de tri d'archives, les formations dans les associations pour les archives, et puis également cette idée de recueil des témoignages, puisqu'on s'apercevait que les associations, elles disaient que c'était important, mais qu'avec les faibles moyens qu'elles avaient, le peu de temps qu'elles avaient, elles ne pouvaient pas le faire. Donc le jour où on s'est amené en disant « nous, on peut le faire », à ce moment-là, ça a commencé à fonctionner. Voilà ce que j'avais à dire sur cette expérience. Tout à l'heure, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers.
Bien, donc, merci pour l'intervention et pour avoir respecté le timing. Donc, au-delà des logiques coopératives qu'a souligné l'intervenant, je voudrais aussi souligner ce qu'il semble aussi indiquer, c'est au fond une exigence croissante de professionnalisation. Alors, peut-être à la fois dans la gestion des archives, mais je dirais aussi dans la conduite des entretiens, puisqu'on voit bien que la conduite des entretiens, trouver un certain nombre d'interlocuteurs, eh bien, maintenant rencontre de plus en plus la nécessité de respecter un certain nombre de règles, de normes, de techniques, etc. etc. Et on s'aperçoit, et là je vais parler en tant que sociologue, on s'aperçoit que, y compris pour nous, c'est une exigence croissante, ne serait-ce que parce que parfois on rencontre des difficultés croissantes dans la maîtrise des entretiens, et notamment la question de l'anonymisation des logiques d'entretien qui devient une contrainte de plus en plus importante et parfois problématique. Je passe la parole, sans attendre, à Jean-Michel Steiner, toujours pour un délai imparti et à respecter.
Un quart d'heure. Ouais. Un quart d'heure, ouais. Merci. En fait, quand j'ai proposé ce sujet pour vu que le Grémaux s'intéresse à l'histoire ouvrière, quand j'ai proposé le sujet, parce que ça me semblait un peu évident, je me suis rendu compte que c'était une entreprise totalement délirante. Donc j'avais le choix, soit passer plusieurs jours à vous exposer ce qu'est l'histoire ouvrière, soit essayer de résumer au maximum. En fait, pourquoi cette question ? Parce que le Grémaux, ça veut dire groupe de recherche et études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, et parce qu'on a, effectivement pas mal de confusions qui surgissent, et on a pu le rencontrer dans les débats qu'on a eus avec les associations entre une notion de mémoire, une notion d'histoire, et voire les notions de patrimoine. Pourquoi l'histoire ouvrière ? Parce que c'est peut-être, enfin c'est ce qui nous semble dans les débats qu'on a eus entre nous, peut-être être une forme de partenariat possible entre toutes les associations de la région, dans la mesure où on identifie la région stéphanoise comme une région ouvrière, où on identifie Saint-Étienne comme une grande ville ouvrière. Alors, en conduisant les recherches qui ont un peu été à l'origine du Grémos, certains d'entre vous savent qu'on a fait un travail de 3 ans sur la grève de 1948. On a rencontré la mémoire, un petit peu ce que disait à l'instant François, cette mémoire parfois douloureuse, parfois éclatée, conflictuelle, mais toujours présente, souvent un petit peu enfouie et souvent, très souvent même, très mal assumée. Et le travail que l'on a mené à partir d'un fonds d'archives qui nous avait été proposé par la directrice de l'époque des archives municipales, un fonds d'archives photographiques, eh bien, si on a choisi, ça a été un débat entre nous, ça a été aussi un débat avec, par exemple, le directeur du musée de la mine, si on a choisi de commencer par l'exposition des photographies une par une en disant voilà, et le travail qu'on a fait, ça a été d'explorer, de rechercher les lieux, les personnes, les événements. C'était justement parce qu'on s'était dit quelque part que en exposant ces matériaux et en essayant de les décrire, de les resituer, on allait permettre à chacun petit à petit de retrouver un morceau de sa mémoire et peut-être arriver à constituer, à écrire l'histoire. Alors, je pense que notre livre est sans doute tout à fait imparfait, mais on a quand même réussi à écrire cette histoire. Je crois qu'on peut dire la première histoire qui n'était pas une histoire militante ou une histoire trop polémique. Donc, dans la pratique quotidienne des associations, nous utilisons ces notions peut-être parfois, je disais, sans discernement. Alors, deux petits points. La mémoire, je rappelle, recouvre plutôt la faculté de se rappeler de moments de conscience passée. C'est quelque chose de plutôt personnel, de plutôt subjectif. Elle est généralement transmise par les témoins, soit oralement, soit dans des autobiographies ou dans des récits historiques. Elle peut quelquefois atteindre aussi une dimension collective quand tout un groupe se souvient d'un événement. Donc, elle donne un sens au présent et aux événements que les individus ont vécu dans leur passé. Elle a donc une fonction sociale. L'histoire et l'étude des faits qui se sont passés, c'est une science qu'on appelle la science du passé. Elle n'existe pas par elle-même, elle est essentiellement construite par les historiens. C'est un passé commun à tous les hommes et une trace écrite qui se veut objective. Dans sa démarche, l'historien essaye d'éclairer ses choix, les choix qui lui ont permis de construire son récit. Il procède à une reconstitution problématique du passé et il peut aussi, c'est la tendance la plus en plus fréquente quand on lit les livres d'histoire et d'aujourd'hui et qu'on les compare avec ceux d'il y a 30, 40 ou 50 ans, on est frappé par le fait qu'il y a 50 ans, l'historien disait « nous » et aujourd'hui, il dit « je ». Donc, ça permet à... Jean-Claude, on a un débat entre nous là-dessus. Ça permet au lecteur de savoir un petit peu d'où parle l'historien. Alors, la notion de mémoire, la notion d'histoire et la notion de patrimoine aussi qui fait appel à une idée d'un héritage légué par les générations et qu'on va essayer de transmettre. Ces trois notions sont des portes d'entrée pour une connaissance du monde ouvrier stéphanois, peut-être dans la mesure où, enfin c'est sans doute, c'est ma conviction, où ce monde ouvrier stéphanois a certaines spécificités. Je prends juste un exemple, celui du logement. Quand on est dans un quartier ouvrier stéphanois, on sait qu'on n'est pas dans un quartier ouvrier du Nord ou dans un quartier ouvrier de Marseille. Il y a quelques données tout à fait essentielles en termes de matériaux, en termes d'architecture qui sont intéressantes et qui sans doute mériteraient des analyses assez fouillées. Alors le plus gros problème qu'a rencontré l'histoire ouvrière, et je viens finalement au vif de mon sujet, ça a été celui d'oser, je ne dis pas, même pas d'affirmer, j'ai d'oser affirmer sa légitimité. Et j'aime bien, quand je réfléchis à cette question, revenir sur cette interrogation, un petit peu naïve peut-être, du premier ouvrage qu'on trouve dans le premier ouvrage qui a été consacré à l'histoire du mouvement ouvrier dans la région stéphanoise, le livre de Petrus Fort. Petrus Fort, dont je rappelle qu'il était un autodidacte ouvrier et qui a osé écrire en 1956 une histoire du mouvement ouvrier dans le département de la Loire, qui est le premier ouvrage qui fait une recension complète des événements qui traite un petit peu de l'histoire ouvrière. Alors il écrit la chose suivante. Si l'histoire est utile aux hommes, pourquoi la borner à celle des guerres, des religions, des mouvements politiques, des châteaux, des monastères, de la musique, de l'art ? L'histoire du travail et des luttes qu'il comporte n'est-elle pas aussi utile à l'éducation d'une société ? Donc on remarque déjà que Petrus Fort ne parle pas vraiment d'histoire ouvrière, il parle plutôt d'une histoire du travail. Mais est-ce que l'histoire ouvrière ne commence pas finalement par là ? Si l'on repense au fait que l'histoire du travail et des travailleurs de l'industrie a d'une certaine façon, et je m'adresse à un spécialiste de la question, débuté avec le démarrage du processus de l'industrialisation et les fameuses enquêtes de Villermé dans les années 1830-1840. À la fin du XIXe siècle, ce sont surtout les républicains d'inspiration qu'on pourrait dire démocratique et sociale, même s'il n'a pas écrit sur l'histoire. On pourrait dire que le maire stéphanois des années 20, Louis Soulier, était d'inspiration démocratique et sociale. Ce sont ces républicains qui écrivent sous les mondes ouvriers. Et on a par exemple l'ouvrage très important de Maxime Leroy, La coutume ouvrière, publié en 1913. Mais Maxime Leroy était lui-même un juriste. C'est avec Fernand Pelloutier et son Histoire des bourses du travail que le premier ouvrier a entrepris en 1902 une œuvre d'historien. Donc l'histoire ouvrière tarde à se constituer. Elle n'intéresse pas les historiens patentés, les historiens qui sont dans l'université au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, mais elle apparaît peu à peu comme une nécessité et elle va émerger dans les organisations ouvrières parce que celles-ci se préoccupent à former leurs responsables. Alors, le grand nom que l'on peut citer à ce propos, c'est celui de Georges Lefranc, qui a été le maître d'œuvre des universités de formation des cadres de la CGT, confédérée, donc la CGT qui était plutôt de tendance socialiste dans les années 20. Et il a écrit plusieurs ouvrages de ses cours vont sortir plusieurs ouvrages publiés dans les années 60. Parallèlement, se constitue une mémoire ouvrière, transmise de génération en génération, une mémoire faite de souvenirs des luttes, d'expériences du travail, de pratiques sociales, de pratiques culturelles, les chansons, de représentations mentales et verbales. Les patrons sont les gros, les briseurs de grève sont les jaunes, les renards. Donc il y a toute une culture qui se constitue par là. Une transmission des luttes, de la mémoire des luttes, dont on trouve un écho, par exemple, dans le Michel Rondet, qui a été écrit par André Philippe, en 1948, qui André Philippe a connu Michel Rondet, et il parle de, il a connu des gens qui, dans les années 1910, avaient eux-mêmes connu les luttes des années 1860. Donc il y a une transmission qui se fait comme ça par voie orale. Alors on voit aussi que, par ce que je viens de citer, que l'histoire ouvrière, et je parle ici sous le contrôle d'Alban Graziotin, a tendance à se confondre avec l'histoire du mouvement ouvrier. Et c'est un problème dont il faut être conscient et que deux historiens nous aident à entrevoir, deux historiens très contemporains. Alors le premier, tu l'as fait venir l'année dernière, il s'appelle Xavier Vignat, donc qui définit un petit peu les attentes d'une histoire ouvrière. Dans la France du XXe siècle, dit-il, les ouvriers ont connu une communauté relative de situation et de destin. Ils ont nourri un sentiment d'appartenance à ce monde, se sont souvent opposés à ceux d'en haut, se sont distingués des ingénieurs et des employés, se sont retrouvés dans des organisations syndicales et politiques qui les encadraient et entendaient les mettre en mouvement. Donc là, il définit un peu, je dirais, le panorama, le territoire de l'histoire ouvrière. Et sur ce plan, Gérard Noiriel va un petit peu plus loin en disant « Si l'histoire du mouvement ouvrier, c'est-à-dire l'univers des luttes syndicales et politiques, a polarisé les regards, au contraire, ce qui relève de l'histoire sociale de la classe ouvrière a été longtemps négligé. » Alors, en deux temps, après la guerre et jusqu'à aujourd'hui, l'histoire ouvrière a donc évolué. Elle a d'abord franchi une étape décisive dans les années 50. C'est avec l'entreprise du dictionnaire biographique de Jean Métron, qui constitue encore aujourd'hui une activité très importante, puisqu'on sont en train de sortir les volumes pour la période 1940-1968, mais surtout, ou aussi parallèlement, sous la haute autorité d'un historien d'histoire sociale, Ernest Labrousse, sont venues les grandes thèses d'histoire ouvrière qui vont donner pleinement sa légitimité. Alors je pense par exemple au livre d'Annie Kriegel, donc les, aux origines du communisme français en 1964, au livre de Michel Perrault en 1974, les ouvriers en grève 1871-1890, au livre de Roland de Trempé, les mineurs de Carmaux 1849-1914, date de 1971, et puis pour notre région plus particulièrement, la thèse d'Yves Lequin, les ouvriers de la région lyonnaise, ne prenez pas peur, il inclut la région stéphanoise dans la région lyonnaise, 1848-1914. Alors, le contenu de ces travaux vont orienter les historiens qui travaillent sur le mouvement, sur le monde ouvrier, vers des méthodes nouvelles qui s'éloignent très nettement de l'histoire bataille, se rapprochent de ce qu'on a appelé l'histoire totale, des approches qui mobilisent toutes les ressources des sciences sociales, permettent d'explorer le monde ouvrier dans toutes ses dimensions. Et puis, les chantiers vont se multiplier à partir des années 1980. Donc cette génération que je viens de citer, c'est un peu la génération pionnière à l'intérieur de l'université. Et puis tous ces chercheurs qui soutiennent leur thèse dans les années 60-70 vont à leur tour diriger des thèses et vont donner donc de nouvelles directions comme l'histoire des femmes au travail, l'histoire des immigrés et des nouvelles synthèses. Donc la synthèse de Noiriel dans les années 90, et puis récemment une synthèse de Xavier Vignat sur les ouvriers français. L'ouvrage de Petrus Fort a été une entreprise pionnière, et elle a quelque part, j'aime bien dire ça aussi, une valeur patrimoniale. Moi, je n'ouvre pas ce livre sans une certaine émotion. Il souffre bien des imperfections, et il faut dire que la recherche sur le monde ouvrier stéphanois, pourtant une des premières régions industrialisées en France, a souffert de l'absence d'université chez nous. Longtemps, les étudiants qui s'intéressaient à ce sujet travaillaient dans une université lointaine. Je pense aux mémoires de maîtrise de Gérard et Michel Raffaelli, le mouvement ouvrier de la Loire pendant la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, donc soutenu en 1969. Le tournant des années 80 a déjà été évoqué ce matin. Il est lié sans doute au déclin industriel, le tournant qui explique la multiplication des associations. Il est tourné aussi, sans doute, au fait que les historiens ont joué leur rôle et ont incité peut-être plus à la réflexion. Alors, pourquoi l'histoire ouvrière ? Est-ce que je peux donner quelques pistes, un plaidoyer ? Je crois que simplement dire qu'il s'agirait de sortir les ouvriers, c'est un petit peu ce que j'ai lancé ce matin à M. De Alberti, de l'arrière-plan du décor, de les placer, je n'ose pas dire de les replacer au centre de la démarche, en plein éclairage, non pas par a priori idéologique et pour évacuer les autres, mais pour comprendre ce qu'a pu être sous toutes ses formes, dans toutes ses dimensions, le monde ouvrier et la vie des ouvriers, selon quelques axes, le travail et tous ses aspects, les accidents qu'on a évoqués ce matin, le logement, les sociabilités, la culture. Donc une multitude de points de vue, d'angles, de perspectives qui doivent permettre sans doute à nos associations de trouver des terrains communs. Et dans ce domaine, je conclurai par là, la grande angoisse de l'histoire ouvrière, et les gens qui vont me succéder vont en parler, c'est la question des archives, et elle nous inquiète beaucoup, parce que de la même façon que l'histoire ouvrière a du mal à trouver sa légitimité, les militants et les détenteurs d'archives ouvrières ont du mal à comprendre que ce qu'ils ont entre leurs mains a un intérêt pour les historiens d'aujourd'hui et de demain. Merci.
Bien, donc je remercie Jean-Michel d'être passé d'une intervention de 3 heures à une intervention de 15 minutes. Et donc je retiens le problème central de légitimité de l'histoire ouvrière et qui impose. Si je l'ai bien compris, que l'ensemble des structures passe d'une logique non pas interne, mais à une logique externe vers le plus grand nombre. Je gêne là peut-être.
Non, après, oui.
Hein, c'est ça ? Bon. Non, parce que.
Sauf si vous voulez être projeté directement.
Non, non, ça va, ça va.
Je pense qu'au fond, c'était pas le but. Ah mais non, parce que là... Il y en a d'autres. Hein, on n'est pas obligé de.
Vous avez besoin de.
Par contre, ce qu'il faudrait, c'est. Non, mais c'était pour montrer. Hein. Si vous voyez, Ah ouais, je vois ce que c'est. Ouais, mais ils m'ont fait des systèmes d'entrée spéciales et ça passe pas. Ils sont pas passés. Voilà. Bon, excusez-nous pour ces. Cette mise au point un peu plus longue que prévu. Donc, d'abord, on va donc pendant une demi-heure à deux voix, Cyril Longin des archives municipales et moi-même des archives départementales, essayer d'évoquer un peu le rôle des archives départementales par rapport à la mémoire ouvrière. Alors, c'est un peu une gageure, hein, parce que là-dessus, on pourrait faire un stage d'une semaine entière. On va essayer de tenir en une demi-heure. Voilà. Le rôle des archives, il se résume en deux mots, conserver et communiquer. Et puis, je vais dire un peu une banalité, on peut pas conserver si on ne... ça sert à rien de conserver si on ne communique pas, et on peut pas communiquer si on n'a pas des choses que l'on conserve. Voilà. Donc les deux choses sont absolument fondamentales. La conservation, c'est quelque chose qui devient de plus en plus technique. Le choix du conditionnement, la chemise, le carton, le choix de l'entreposage, la manière de poser l'archive sur le mobilier, le choix du mobilier, le traitement d'air, l'ambiance dans lequel, en hygrométrie, température dans lequel les archives sont conservées. Les techniques de transfert sur d'autres documents par numérisation ou microfilmage, tout ça, c'est un aspect très technique de notre métier, mais qui est désormais notre quotidien et qui prend une part de plus en plus lourde dans les moyens que nous consacrons à la vie de nos archives. La deuxième partie, la communication, c'est la salle de lecture, c'est la réponse aux courriers, c'est les actions culturelles, scientifiques, souvent en partenariat d'ailleurs, c'est les sites internet maintenant qui prennent une part de plus importante. Alors entre les deux, il y a le classement et l'inventaire, parce qu'on ne communique pas évidemment des vracs, ça ne sert à rien. Donc c'est un travail qui, c'est pareil, peut prendre de plus en plus... énormément de moyens chez nous parce que ça peut être très long. Alors Nicole Noisette qui est là a passé 9 ans, 10 ans sur les archives de Manu France, 6 ans complets avec d'autres sur les archives de Manu France. Le répertoire, l'inventaire devrait sortir l'année prochaine. Il y avait 150 mètres cubes en vrac, hein, donc ça explique un peu la durée du travail. On vous a montré quelques inventaires d'archives que nous avons là sur la chapellerie, les verreries, etc. On est resté dans le thème évidemment de l'industrie. Voilà donc un peu en introduction. Et puis je voulais essayer de vous présenter très rapidement les différents types de fonds que nous conservons. Et je laisserai ensuite la parole à Cyril Longin pour vous expliquer le rôle que l'on a par rapport aux différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Alors, il faut en venir à la définition des archives. Qu'est-ce que c'est que les archives ? C'est les documents qui sont produits par quelqu'un dans son activité. Voilà. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui agit et pour son action, il a besoin de mettre des choses par écrit. Alors ça peut être le registre de délibération de l'Assemblée générale de l'association, ça peut être les arrêtés, les circulaires signés par l'administration, ça peut être de la correspondance, ça peut être de la comptabilité chez les comptables, etc. Mais c'est en fait l'action de quelqu'un qui va déterminer les archives. Alors, pour vous présenter donc en moins d'un quart d'heure les archives, je me suis dit que j'allais prendre les grandes fonctions fondamentales de l'administration pour vous faire comprendre le type d'archives que l'on a. Alors, la première, c'est de connaître l'administration royale déjà, parce que ça a commencé dès le XVIIe siècle, ça s'est développé au XVIIIe et puis maintenant ça prend une part de plus en plus importante, a toujours cherché à connaître l'état de la situation et donc a fait des statistiques. Alors là, je vous montre une statistique des associations ouvrières de production qui doit dater de 1852. Voilà, voilà ce qu'on peut trouver. Alors, la statistique, ensuite, elle prend des formes tout à fait variées. Hein. Et puis, à côté des statistiques, dans l'action de connaissance, il y a tout ce qui est rapport et études. La deuxième... Et alors, c'est là où ça ne marche pas. Normalement, il devait y avoir du texte. Non, mais... ouais. Non, mais c'est pas grave. En revanche, il faut que je vois le document pour savoir à quel... Voilà. La deuxième, c'est surveiller. Non, mais... La deuxième, c'est surveiller. On surveille la population. Puis alors, surtout toute la population qui risque de menacer l'ordre. Donc, ça donne lieu à une action de police, de renseignements généraux. Et ça se traduit en termes de documents, par des rapports. ou des dossiers en général auprès du cabinet du préfet. Alors je parle au niveau d'archives départementales. La ville a peut-être moins cette notion de surveillance, mais je pense qu'on en trouverait quand même quelque chose qui relève un peu de ça. Hein. Voilà. Déjà la police municipale, bien entendu. Voilà. La troisième. Alors là, ça existe, hein, je dirais, depuis toujours. Alors, il y a la part orale et puis il y a la part écrite. Nous, il nous reste que la part écrite. Et nous, il nous reste que la part écrite que les renseignements généraux ont bien voulu nous donner. D'ailleurs, on n'a pas tout. La troisième grande fonction, c'est de faire appliquer la législation. Alors, évidemment, la législation sur le travail, et là, vous avez une enquête hein, qui a été faite. Alors, c'était passé par l'inspecteur, par les inspecteurs du travail, sur l'application de la loi de 1841 réduisant le temps de travail et organisant le travail des enfants dans les mines. C'est quand même un de nos plus beaux dossiers. Mais cette notion de faire appliquer les textes en vigueur, elle occupe une très, très large part de nos fonds. Il y a évidemment tout ce qui est code du travail, mais il y a aussi tous les codes du commerce et derrière ça, toute la législation, tous les documents qui sont livrés aux tribunaux, etc. Et à l'administration dans ce cadre-là. Et il y a aussi un autre aspect, c'est quelquefois la législation, ça aboutit à nationaliser, et c'est-à-dire à confier à l'administration la gestion des entreprises. Donc on a, à ce titre-là, des fonds d'entreprise. Je pense en particulier aux fonds des entreprises minières, dont les sociétés à l'origine privées ont été nationalisées. Et donc, tous les fonds de ces entreprises-là sont chez nous. On a 1,5 km d'archives. Alors, on finit Manu France, puis après, on espère de travailler sur les archives minières. Voilà, ça serait notre prochain souhait. L'action suivante, j'ai eu un petit problème hein, sur mes... Voilà, qui apparaît surtout au XXe siècle, en fait, hein, 20e, 21e siècle, qui apparaît avec la crise économique, c'est toute l'aide économique et l'aide à l'emploi. Alors, que ce soit l'aide aux entreprises hein, ou l'aide auprès en général des chômeurs ou des travailleurs quand ils ont besoin de mettre en place des dispositifs pour leur permettre de mieux s'insérer dans le monde de l'emploi. Donc là, c'est un document qui est issu de l'ADIL, l'Agence pour le développement de l'industrie dans la Loire, qui, au moment de voilà, toute cette période de crise qu'on connaît depuis la deuxième moitié du XXe siècle, enfin une bonne partie de la deuxième moitié, après les Trente Glorieuses, où on énumère l'ensemble des aides qui sont apportées. J'ai pris ce document, mais on a des boîtes et des boîtes hein, sur ce thème-là. Et derrière ces aspects un peu distribution de subventions, etc., dispositifs, il y a souvent des choses très intéressantes sur le monde ouvrier. Je crois que c'est fini, non ? Comment ça c'est ? Ah oui, voilà. Et la dernière fois, vous vous êtes rendu compte quand j'ai énuméré toutes ces fonctions ? Connaître, surveiller, appliquer la législation et développer, aider au développement économique et à l'emploi, qu'on a une vue très extérieure du monde ouvrier. C'est pas le monde ouvrier tel qu'il vit en lui-même. Et c'est pour ça que depuis longtemps, on peut citer Charles Brébant, 1949, directeur des archives de France, hein, donc depuis déjà maintenant plus de 60-70 ans, les archivistes se sont souciés d'offrir aux historiens, aux chercheurs, à tous ceux qui s'intéressent à la mémoire ouvrière, autre chose que les fonds publics, pour justement éviter le biais que pouvait apporter la connaissance du monde ouvrier simplement par la vue de l'administration. Parce que ce que je vous ai présenté avant, c'est le regard de l'administration. Donc, comme je dis, on apprend qui pollue, qui paye des impôts, qui se dispute avec le voisin, mais la vie interne, on la connaît pas. Et c'est pour ça que depuis... alors, 1949, c'est une date importante, mais c'était pas... Ça avait déjà un peu commencé avant. On essaie de faire en sorte de sauvegarder les fonds privés. Alors, pour illustrer Manu France, voilà, donc à fond des fiches de dossiers de personnel, hein, ça doit être ça, ou de, donc on a un armurier, voilà. On en a beaucoup. Ces fonds-là, ils peuvent être variés. Le but est de rendre compte des acteurs. Donc, ça peut être les entreprises, ça peut être des syndicats, des associations, des fonds de militants, ça peut être des fonds de journalistes, et en particulier des fonds photographiques. Là, je pense aux archives municipales qui sont très riches dans ce domaine-là. On espère ainsi donner à ceux qui font de la recherche des outils pour mieux comprendre ce qu'est le monde ouvrier et éviter de voir en quelque sorte chercher au-delà du regard de l'administration, leur donner des clés pour mieux interpréter les documents qu'ils peuvent trouver. Voilà un peu le rapide panorama que je voulais vous faire, et je vais laisser maintenant la parole à Cyril Longin pour la deuxième partie de notre intervention.
Alors, l'idée, en poursuivant cette logique, c'est reprendre très rapidement ce qu'a pu dire Solange Bidou. Les missions des services d'archives, c'est par rapport aux archives privées, puisque vous l'avez dit, nous, les services d'archives publiques ont aussi vocation à conserver des archives privées qui apportent donc un éclairage très différent de ce que l'administration peut laisser comme trace. Alors, évidemment, ce sont des archives papier, hein, d'entreprises, d'associations, de militants, etc. Mais ça peut être aussi de la mémoire enregistrée. Donc François Maguin en a parlé tout à l'heure. Alors c'est sur le pour beaucoup c'était des amicales laïques, mais évidemment ça concerne aussi d'anciens mineurs ou autres. Et donc ces missions de conservation et de valorisation, elles se traduisent d'archives privées donc par la conservation sous deux formes, des dons ou des dépôts. Donc le don, c'est une cession matérielle du fonds à la collectivité qui en assure la conservation, qui prend la responsabilité de la conservation pour l'éternité. Donc ça a aussi un coût pour la collectivité. Sous forme de dépôt, donc l'association, le particulier, conserve la propriété matérielle. Le dépôt est consenti pour une durée déterminée. Chaque fois, ces dons ou dépôts font l'objet de conventions où l'on détermine les conditions de classement, de communication, de diffusion, de valorisation, etc. Les archives, dans ces cas-là, assurent le traitement, donc classement et conditionnement. Donc le classement, c'est de la technique. Hein, il faut l'identification des fonds, le classement scientifique fait appel à une certaine expertise. Le conditionnement, là, ça rentre dans la conservation. Alors, il n'y a pas que le bâtiment, hein, il y a aussi tout le conditionnement qui est extrêmement important. Donc la collectivité prend en charge ce travail-là. Mais aussi les services d'archives, dans ce cadre-là, assurent la communication en salle de lecture et la valorisation. Comme on l'a dit, je crois que ce matin, M. de Saint-Chamond disait « Bon, c'est bien gentil d'avoir des archives, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Si c'est pour ça dans un placard, autant rien faire. Autant les jeter immédiatement. » Mais néanmoins, la communication des archives doit respecter un certain nombre de conditions de sécurité. Déjà, on ne communique un fonds que quand il est classé ou moins identifié, sinon... au risque des vols, de perdre l'intégrité du fonds. Donc les services d'archives offrent cette possibilité, ont une structure adaptée à cela, hein, la communication en salle de lecture qui est sécurisée, offre aussi des horaires d'ouverture, parce que dans les associations, c'est bien, hein, c'est pas toujours évident de laisser un temps d'ouverture aux chercheurs. Et puis nous offrons également une valorisation, hein, de ces fonds à travers des expositions. Enfin, on utilise des... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une seule exposition qui ne fasse pas appel à des archives privées. Enfin, Voilà, je pense que quels que soient les services d'archives, les archives privées apportent une sensibilité que n'apporteront jamais les archives publiques. Il peut y avoir des conférences, etc., sites internet. Les partenariats que nous pourrions en fait apporter, au-delà de la conservation, c'est aussi l'appui de professionnels. Nous apportons une expertise archivistique et scientifique sur l'intérêt des archives, voilà, auprès d'associations particulières. Nous sommes là pour vous dire voilà, si ce fonds peut avoir un intérêt, s'il faut le trier ou pas. Voilà, nous pouvons apporter également des conseils sur le traitement des archives et autour de la communication. François Maguin l'a dit tout à l'heure, nous avons proposé depuis l'année dernière une formation à travers l'UVA, une formation sur le classement des archives auprès des associations. Voilà. Ça nous paraît essentiel. Nous n'avons pas forcément vocation à conserver toutes les archives et à les traiter. Si vous souhaitez, si les conditions sont bonnes, très bien, conservez-les. On peut vous aider simplement à les classer correctement et en assurer aussi une communication raisonnée et dans de bonnes conditions. Il y a aussi nous pouvons apporter des conseils sur les conditions de conservation. Alors, les archives départementales ont la chance d'avoir une restauratrice. Il y a 2 ans, je crois que c'était en 2012 ou 2013, nous avons organisé une première réunion d'information auprès d'associations de la Loire aux archives départementales avec l'intervention de la restauratrice des archives départementales. C'est vrai que c'est parlant quand vous avez un professionnel en face de vous qui vous dit concrètement, sans avoir forcément de gros moyens, les précautions à prendre minimales en termes de bâtiment, de conditionnement. Ça nous paraît essentiel. Les services d'archives sont aussi là pour ça. Et puis un point très important, c'est Mme Hidou qui l'a soulevé, c'est que les archives ont aussi ce rôle de créateur de liens, de réseau, passeur d'informations auprès des historiens. En ayant la connaissance de fonds conservés ici ou là, dans des associations ou ailleurs, nous pouvons faire connaître auprès des chercheurs ces lieux de ressources. Voilà. Cette notion de réseau dont on parlait tout à l'heure, elle est très présente là. Alors, en réfléchissant à la manière dont nous pourrions travailler avec les associations, est venue une idée de recensement des ressources conservées dans la Loire, des ressources touchant l'histoire ouvrière. Pourquoi ? Déjà identifier les détenteurs d'archives. Je pense que c'est un travail, c'est jamais fini, par définition. Néanmoins, notre collègue de patrimoine, René Alpin, nous disait voilà, il y a une tentative de recenser un certain nombre de sites remarquables. Mais les archives, il y en a partout. Il y en a partout et peut-être en péril. Donc c'est ça aussi. C'est pourquoi, au-delà d'identifier, c'est de repérer les situations d'urgence. Pouvoir aider les associations, peut-être qu'ils se sentent seules dans leur coin, sans savoir à qui faire appel. Et peut-être que là, nous avons, c'est notre mission, effectivement, entre autres, mais nous pouvons apporter nos compétences. Pourquoi aussi ? C'est faciliter l'accès et la valorisation. On l'a dit, conserver les archives pour qu'elles ne soient pas communiquées, autant arrêter. Donner accès aux chercheurs, faire connaître ces ressources et leur donner accès. Alors comment ? Il y a un principe de réseau, de partenariat, c'est que vous, association, vous devez être au cœur de ce recensement. Rien ne sera possible sans vous, rien ne sera possible sans un travail collectif. Nous pourrions vous aider ou rédiger ensemble déjà une fiche d'identification. Peut-être que ça commence déjà par là, ce recensement. Une petite fiche d'identification de fonds, de détenteurs, avec quelques éléments résumant le fonds, les conditions d'accès, etc. Et puis, les associations pourraient jouer un rôle d'information auprès des détenteurs d'archives, rôle de relais, d'instigateur dans les territoires. Voilà une piste ou des pistes de réflexion que nous souhaiterions vous soumettre. Après, les modalités sont à construire, évidemment, ensemble, sachant qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a que des partenaires. Voilà, merci.
Je sors d'un congrès d'archivistes et quelqu'un nous a rendu compte d'une enquête qui est en cours depuis déjà 2 ans sur les publics des archives, sur l'audience qu'on a auprès de notre public internet, etc. Et il y a une constante qui revient toujours, c'est qu'à partir du moment où on est en mesure de faire connaître l'existence de ce que l'on propose, la consultation est multipliée. Voilà. Et donc, finalement, le recensement, ça servirait à ça. Parce que vous dites tous que vous avez des chercheurs, mais je pourrais reprendre aussi combien de chercheurs qui seraient intéressés par vos archives et qui ne savent pas qu'elles existent. Voilà. Et donc, l'idée, ça serait de dire, à partir du moment, avec toute l'expérience que l'on a, justement, où on en fait un état et où on le diffuse, alors, dans les conditions de communicabilité souhaitées par les uns et les autres, ensuite, ça se travaille, l'idée, c'est que vos archives, elles servent beaucoup plus qu'elles ne servent aujourd'hui. Hein. C'est un peu ça. Donc, voilà. C'était un peu ça, l'idée qu'on avait. Maintenant, la réalisation concrète... on n'est pas allé plus loin. Hein.